Musée Culte saison 3, c'est la Miles Davis Electric Story en 12 parties. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1, la transition. Miles Davis n'a eu de cesse de renouveler sa musique et de renouveler le jazz au sens large. Constamment en quête de reconnaissance, il a d'abord cherché l'adoubement de la communauté afro-américaine à New York à la fin des années 40, puis la reconnaissance de ses pairs musiciens. Par la suite, il fraiera avec le rock et la variété et s'imposera auprès du grand public. À ce sujet, une anecdote restée célèbre dans son autobiographie rédigée avec l'aide du poète Quincy Troup, publiée en 1989. Se rendant en limousine à la Maison Blanche pour un dîner de gala organisé par Nancy Reagan, une dame lui demande ce qu'il a fait pour mériter un tel honneur. « Eh bien, aurait répondu Miles, j'ai changé le cours de la musique 5 ou 6 fois. Et vous ?» Avec l'album Kind of Blue sorti en 1959, il crée le chef-d'œuvre du jazz dit modal. Il passera du statut de personnalité du jazz à celui de star dans les années 70 avec la reconnaissance du monde du rock. Il inventera du reste le jazz rock, puis posera les bases du jazz fusion, tout cela en l'espace de moins de 10 ans, de 68 à 75, avant de vivre une éclipse puis de réapparaître encore plus fort en 1981, pour, in fine, atteindre le statut de superstar et d'icône. Néanmoins, sa période la plus intéressante, à mes yeux, est celle dite électrique. En effet, elle se trouve au carrefour de multiples événements, tant musicaux et sociaux que politiques et historiques. Carrefour que Miles Davis n'a pas loupé, notamment en publiant en 70 l'album Bitches Brew, monument discographique qui dépasse le seul jazz. Mais revenons un peu en arrière. Au milieu des années 60, Miles est fatigué. Il éprouve de grandes difficultés à retrouver la forme physique, ayant régulièrement abusé de diverses drogues. Néanmoins, il a monté un premier quintet historique en s'entourant de jeunes musiciens prometteurs. Wayne Shorter au sax, Tony Williams à la batterie, 17 ans à l'époque, Herbie Hancock au piano, sans oublier Ron Carter à la basse. Pendant ces années-là, Miles pressent que quelque chose est en train de se passer. Le rock est en pleine mutation, Dylan s'est électrifié, le funk pointe le bout de son groove et de ses paillettes avec Sly Stone, et Jimi Hendrix est en passe de devenir une icône. Conscient qu'une lame de fond est en train de monter, Miles saura anticiper tous ces changements, les synthétiser et se positionner aux avant-postes alors que la new stuff, à savoir le free jazz, est en train de bousculer les codes traditionnels du jazz. Il sera aidé dans sa démarche par son producteur, Theo Macero, mais devra constamment lutter pour imposer ses idées à sa maison de disques Columbia. Première incursion vers l'électricité avec l'album Miles in the Sky, enregistré entre janvier et mai 68. Miles in the Sky marque une transition avec ses albums précédents. Herbie Hancock joue du piano électrique, Ron Carter passe provisoirement à la basse électrique et Miles accueille un jeune guitariste nommé George Benson sur le titre Paraphernalia. We'll be right back. La transition n'est pas que musicale, elle intervient aussi dans l'emballage, à savoir la conception artistique des pochettes, jusque-là terrain réservé de la seule maison de disques. Miles n'aura de cesse de pousser sa vision, il imposera ainsi sa femme, Frances Taylor, sur l'album ESP en 65, puis Cicely Tyson sur Sorcerer en 67, et enfin Betty Mabry sur Fille de Kilimanjaro en 68. On doit la pochette, disons, ésotérique de Miles in the Sky à Victor Atkins, un peintre expérimental et designer new-yorkais. Elle représente ce que j'apparente à des couches du noyau terrestre dans des teintes orangées, jaunes et rouges sur un fond bleuté. On ne pense pas immédiatement à un disque de jazz, mais l'œil est irrémédiablement intrigué. Miles va adopter une attitude de plus en plus provocante, pas seulement sur scène, mais aussi à la ville. Ainsi, il s'achète une Ferrari 275 GTB avec laquelle il sillonne les rues de New York à vive allure. Un mot sur Betty Mabry que Miles épouse en 68. Bien que leur mariage n'ait duré que un an, celle-ci est à l'origine d'une profonde mutation chez le trompettiste. Betty va l'initier au funk et au rock, transformer sa garde-robe, le pousser à adopter une coiffure afro, et ira même jusqu'à lui souffler le titre provocant de « Bitches Brew », le brouet des putes. Il assistera avec elle à l'enterrement de Jimi Hendrix. Le glissement vers l'électricité va se poursuivre avec « Fille de Kilimanjaro », le dernier avec Ron Carter, qui n'acceptera pas d'abandonner sa contrebasse. La musique de Davis va se simplifier, il va permettre à ses musiciens de donner libre cours à des improvisations, à jouer moins de notes, less is more, voire à imaginer la musique entre chaque espace rythmique, play what's not there, leur répétait-il. Sur le morceau titre Nefertiti, sorti en 67, Miles fait répéter à l'infini le thème central par son sax Wayne Shorter et se contente de jouer à l'accompagnateur. Dans l'épisode 2, il sera question de la recherche du silence. D'ici là, bonjour chez vous.